D'abord, quelques petites considérations, on va dire, techniques. Pour introduire cette prédication, qui sera un petit peu longue, mais puisque nous sommes sur Internet, vous allez pouvoir lire et aussi interrompre et aussi reprendre. Dans la période de l'année liturgique dans laquelle nous sommes, surgissent dans les listes des textes du jour des récits, des allusions, des paraboles, des paroles concernant non pas la fin des temps, mais la fin d'un certain temps, notre longue époque. Celle-ci serait conclue par une venue, en latin « adventus », qui a donné en français le mot « avant », « A-V-E-N-T », une venue, donc, celle du Fils de l'homme, la figure de celui que les premiers chrétiens ont rapidement assimilé à Jésus-Christ. Si bien que l'attente de la venue du Fils de l'homme, personnage inaugural du début de la fin du temps, s'est transformée en attente du retour du Christ. Beaucoup de gens aujourd'hui, la plupart d'ailleurs, portent, on l'avoue, une attention un peu distraite vis-à-vis des temps liturgiques. Et ils croient que l'avant, c'est la période de l'attente de Noël, une période qui est avant Noël, une sorte de préparation à la naissance de Jésus. Or, ce n'est pas du tout le cas. Il s'est juste passé une sorte d'écrasement conceptuel entre deux phénomènes, l'attente de la venue et la fête de Noël. L'avant est un temps vécu par les premiers croyants au Christ, par les premiers chrétiens, bien longtemps avant que la fête de Noël ne soit instituée. Si bien que, lorsque nous pénétrons dans l'ambiance de ces récits de préparation à la fin d'un certain temps, nous approchons, sommairement, car nous ne sommes pas du tout dans le même contexte ni n'avons les mêmes références que les premiers croyants au Christ, mais nous approchons un peu de leur état d'esprit. Eux, pour qui la venue de Jésus était certes très importante, indispensable, mais moins que son retour espéré. Les premiers croyants au Christ, s'ils croyaient évidemment que leur Christ avait été annoncé par les prophètes, avaient, si je peux me permettre cette expression triviale, avaient encore faim. Ils avaient faim. Ils n'étaient pas rassasiés. Ils avaient certes conscience de leur salut personnel, de la chance de se considérer comme libérés et sauvés, mais ils avaient aussi conscience qu'autour d'eux, pas grand-chose n'avait changé, à part eux-mêmes. Les premiers croyants, beaucoup plus cohérents finalement, assumaient le fait que tout n'était pas encore accompli. Nous, en revanche, du moins nous, les croyants classiques, contemporains, nous devons à chaque fois, dans ces temps de Noël, réprimer une sensation bien connue et quand même étrange de frustration devant les réjouissances autour de la venue de ce Christ, au milieu de toutes ces phrases qui disent dans un certain brouhaha qu'il est celui qui transforme le monde, alors que ce monde, s'il a beaucoup évolué, en mieux d'ailleurs, même si tout le monde n'est pas d'accord avec ça, ce monde n'a pas structurellement changé. La fête de Noël ne doit plus être un verrou à l'espérance, car s'il n'y a plus rien à espérer, il n'y a à mon sens non plus rien à croire. Oui, c'est un fait avéré que la venue de Jésus n'a pas transformé le monde, comme cette profusion de phrases de Noël tente de nous le faire croire. Si le monde a évolué en mieux, et ce malgré l'accroissement spectaculaire des humains sur cette planète, ses structures n'ont pas changé. Et pour rester dans l'esprit de nos textes du jour, eh bien, il y a toujours, par exemple, un profond respect, voire de l'admiration pour des despotes. Il y a toujours un laisser-aller, parfois admiratif, pour des personnes avides et voraces, toujours mises en tête d'affiche, au nom de quoi ? Au nom de leur succès. La politique est encore et toujours un jeu d'initiés, pourtant évident, mais encore masqué par des prouesses de communication. Le mensonge, en fait, trouve encore et toujours son logement quelque part, même s'il change de place, même s'il doit souvent déménager. Des guerres, évidemment, encore et toujours, et même si la proportion de victimes de celles-ci ne cesse de diminuer. Oui, tout cela, c'est le temps où nous étions, c'est le temps où nous sommes, c'est notre longue époque, c'est le temps juste avant, le temps de l'avant. Nous avons réussi dans notre partie du monde à révéler beaucoup de comportements déviants, à les criminaliser, crimes contre l'humanité, pédocriminalité, agressions sexistes, homophobie, appel à la haine. Mais nous sommes encore aveugles devant le fait d'accepter avec un certain fatalisme que des individus, et leurs clans, même soi-disant démocratiquement élus, puissent encore et toujours entraîner des peuples dont ils ont réussi à se faire aimer, parfois passionnément d'ailleurs, par une majorité d'entre eux, les entraîner à des catastrophes, voire à des génocides. Si nous déplorons ces situations, nous ne réalisons tout de même pas encore que ce n'est pas normal. Comme auparavant, nous fermions les yeux devant d'autres déviances, eh bien là, nous sommes encore en train de fermer les yeux et le futur nous éclairera peut-être, je l'espère, sur notre aveuglement, comme notre présent a réussi à éclairer beaucoup de comportements de notre passé collectif. Comment avons-nous pu laisser passer des trucs pareils? C'est pourquoi il faut clairement affirmer qu'il y a encore un lourd besoin d'espérance et mettre en valeur que des textes bibliques sont là pour nous faire ouvrir les yeux avant tout le monde et découvrir, par exemple, que des termes de cette espérance sont concrètement énoncés dans les textes du jour de la période de l'Avent. Aujourd'hui, le prophète Ézéchiel annonce que ce temps qui vient devra être marqué non seulement par le soin des plus faibles, de ceux qui sont perdus, mais aussi par la disparition de l'inégalité. Dans le temps qui vient, celui qui se gave aux dépens des autres n'existera plus. Relisez, le texte est à peine métaphorique. L'évangile de Matthieu dit à peu près la même chose, à savoir que dans le temps qui vient, il ne sera plus question de laisser tomber les gens les plus faibles. Dans le temps qui vient, il n'y aura plus aucun prétexte pour justifier cet abandon. L'évangile de Matthieu est vraiment dans le droit fil de ce que nous disions au début de cette prédication. Aux disciples qui pensent qu'il faut honorer le Christ du plus grand soin, Jésus répond vigoureusement qu'il se trompe, car dans le temps qui vient, c'est-à-dire pour les lecteurs de l'évangile de Matthieu bien après la mort de Jésus, le soin, donc la pratique religieuse, ne se fera pas sur une figure adorable, y compris celle de Jésus, mais elle se fera, cette pratique religieuse, ce soin, sur les malades, les affamés, les assoiffés, les étrangers, les prisonniers. Voilà comment l'évangile de Matthieu tente d'éviter que le pli religieux se fasse définitivement autour de la figure de Jésus, mais il n'a pas vraiment réussi. On voit donc, dans ces deux premiers textes, que le temps qui vient est activé par une pratique égalitaire et de soins des plus faibles, et pas spécialement par une dévotion pure et désincarnée, ou une foi seule. Mais c'est le texte de la première lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens qui résume tout. Et c'est celui-ci que j'ai choisi, de faire résonner ce matin. Nous voyons bien que le principal problème de ce temps qui met du temps à advenir, c'est le pouvoir dans le sens de la puissance. Et en français, qui est une des langues les plus intelligentes d'elle-même, l'étymologie de puissance, de pouvoir et de possession est la même. Si bien que, si l'on se réfère à ce fil biblique évident, qui relie par exemple l'installation par le Créateur du monde de luminaires dans le ciel à la place de puissantes divinités et de leurs prêtres, évidemment, ce fil qui va passer par le ressentiment de Caïn d'avoir été dépossédé, ce fil qui continue avec cette manifeste ivresse du pouvoir et de la possession qui a saisi David plusieurs fois dans sa carrière, et quand on regarde aussi sa fin lamentable, un fil qui peut se prolonger avec la faillite de Salomon, qu'on peut repérer aussi dans la destruction d'un royaume soi-disant unifié, qu'on voit passer par les déportations, mais qui se relie aussi avec, autour du peuple d'Israël, avec le remplacement d'empires glorieux et tout-puissants par d'autres empires encore plus puissants, qui eux aussi sont systématiquement détruits, ce fil, ce ressort biblique auquel s'accroche toujours un cœur incessant de prophètes en colère contre les rois, et qui va par exemple aller jusqu'au choix tactique de la non-résistance, peut-être voulu par Jésus, mais en tous les cas appliqué par les premiers chrétiens vis-à-vis de l'Empire romain, on voit bien que ce fil, aux innombrables anecdotes contre les agissements des puissants et des puissances, n'a qu'une seule origine, qui n'est pas, contrairement à ce que pense le philosophe Nietzsche, un amour de la faiblesse. mais qui est la certitude que la seule puissance est en Dieu, et toute autre prétendue puissance, royaume, n'importe quel roi qui se croit propriétaire des terres, des âmes et des corps, ne sont que des usurpations, que des conséquences des effets d'un récit bien conçu et de l'ignorance générale qui, on le sait, favorise la soumission. Que dire de mieux que cet extrait de cette lettre à l'église de Corinthe que je vous relis? Quand le Christ remettra la royauté à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à rien tout principat, toute autorité, toute puissance. Difficile d'être plus explicite. Pour les premiers croyants au Christ, c'était ça l'avenir certain. Pour nous, c'est au mieux très utopique, voire dangereux. Mais le texte de Corinthiens va encore plus loin, ce qui nous permet de ne pas transformer l'évangile en programme politique. Qu'est-ce qu'un puissant? Une puissance, finalement. C'est simplement quelque chose qui ne peut agir sur nous et nous soumettre que par le fait qu'elle est capable d'attenter à notre vie et à la vie de nos proches et jusqu'à nous en priver. Le pouvoir est essentiellement une menace et il est l'ami de la mort. Il survit de la possibilité que la vie peut se perdre et qu'il vaut mieux se soumettre que de perdre non pas forcément sa vie à soi mais la vie des gens qu'on aime, la menace. Or, les premiers croyants au Christ se distinguaient parce qu'ils affirmaient que la mort avait été vaincue par le Christ lui-même dans le paradoxe de la croix que Paul appelle une folie. Vaincu la mort. La preuve en était eux-mêmes, toujours là, ces premiers croyants au Christ, de plus en plus nombreux et fervents des décennies après la mise à mort de leur Christ. Ils se considéraient, même en étant de plus en plus persécutés, comme des preuves vivantes de leur propre foi. Si la mort n'avait pas été vaincue, nous ne serions pas là à narguer l'Empire, nous ne serions pas là à affirmer que le Christ est vivant, et nous ne serions pas aussi fervents et joyeux et communautaires et égalitaires, voire même non sexistes à la mode antique, voire presque démocratiques, et j'en passe. Les puissances voraces disparaîtront parce que le véritable ennemi, dit Corinthiens, celui qui sera réduit à rien, c'est la mort. Voilà donc ce qui nourrissait la ferveur des premiers croyants au Christ, l'anéantissement de la mort, de la peur qu'elle engendre et dont usent et abusent toutes les puissances. Mais celles-ci ne valent rien face à celui à qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Vous le répétez, nous le répétons chaque dimanche, il va bien falloir un jour en tirer les conséquences. Même Machiavel, ou le plus fin des conseillers en communication, ne peut rien devant ce type d'espérance, à condition qu'on la ressorte des décombres théologiques. Amen.